L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme, aujourd'hui, on va tenter de comprendre les raisons de la brouille diplomatique entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis. On s'intéressera aussi à la parité entre le franc suisse et l'euro et on verra dans quelle mesure ça favorise les exportations suisses. On reviendra également sur l'affaire des migrants soudanais expulsés de Belgique puis torturés à leur retour au Soudan. Au Canada, on verra comment le gouvernement a tiré les conséquences de l'affaire Weinstein pour mieux prévenir les viols et agressions sexuelles. Enfin, en France, on va s'intéresser à une jeune association qui a porté plainte contre le géant Apple pour l'obsolescence programmée de certains de ses téléphones. Voilà pour l'actualité francophone qui commence. Bienvenue à tous. Xavier Besson pour RFI. L'homme de la semaine, c'est l'ex-footballeur ivoirien Emmanuel Eboué.
Oui, l'ancien défenseur international passé par Arsenal en Angleterre ou Galatasaray en Turquie. Il a accordé un entretien au Mirror, dévoilant une véritable descente aux enfers. Un divorce coûteux et des mauvais conseils l'ont laissé ruiner. Aujourd'hui, il squatte chez des amis, vit dans la peur de voir débarquer les policiers et prie pour qu'on ne le reconnaisse pas dans les transports en commun. Mais cela pourrait s'arranger. L'article a beaucoup été partagé et ses deux anciens clubs, anglais et turc, ont promis de lui venir en aide.
En France, gros plan cette semaine sur Jonathan Trudel. C'est un ingénieur de 33 ans et il est atteint de mucoviscidose. Il y a 8 ans, il a dû subir une double greffe cœur-poumon. Et bien voilà que cet homme ambitionne de participer l'an prochain à la compétition sportive baptisée Ironman. Ce sera à Nice, dans le sud de la France. C'est une épreuve qui combine 3 disciplines, de la nage pendant 4 km, puis 100 km à vélo. Et pour terminer, on fera un marathon. Très difficile. Donc cette épreuve quand on est en pleine forme et ça devient un exploit, un parcours du combattant quand il faut, comme Jonathan Trudel, composer avec la mucoviscidose. En Suisse, c'est une fois de plus Roger Federer qui fait la une, Ron Oschuli, à l'heure de tirer le bilan d'une année incroyable pour lui.
Non seulement Federer fait les grands titres, mais cette fois, on a remisé tout esprit critique au placard. Ces dernières années, à la même époque, les plumes trempaient souvent dans l'acide. Federer va-t-il faire l'année de trop? A-t-il franchi un pas de plus vers le déclin? Ou à quand la... le micro aux spécialistes, on convoquait les statistiques et on renvoyait Papy Federer à son âge canonique et à son glorieux passé. Cette année, Federer a fait taire l'assistance raquette en main. Plus de place pour les questions, silence, on admire et on érige des statues.
En Belgique, Thomas de Brouckère, le Premier ministre Charles Michel est dans la tourmente en cette fin d'année?
Oui, avec tout d'abord un pacte énergétique qui a du plomb dans l'aile. Le nouveau plan était enfin approuvé par toutes les régions du pays. C'était sans compter sur Bart De Wever, le président du parti nationaliste flamand et partenaire au sein de la majorité gouvernementale. Bart De Wever rejette la sortie du nucléaire en 2025, un fameux revers pour Charles Michel. Ensuite, un grand plan de relance économique devait être voté avant la fin de l'année, mais là aussi l'échec. Une partie de cette réforme est repoussée à l'an prochain. Et enfin, la polémique avec son secrétaire d'État Théo Franken, qui lui a caché des informations. Nous en reparlerons d'ailleurs dans un instant. Bref, le début de 2018 s'annonce chahuté pour Charles Michel.
Laurent Thérien au Canada, comme partout, c'est l'heure des bilans. Alors, quelle est la personnalité canadienne qui aura marqué l'actualité chez vous?
Alors, Eric, c'est assurément Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal. Elle a d'ailleurs été nommée personnalité de l'année par la presse canadienne. Elle était pratiquement inconnue du grand public encore l'été dernier et elle a fait mentir la plupart des pronostics et tous les analystes politiques en battant le maire sortant Denis Coderre lors des élections municipales au mois de novembre. Elle a notamment promis d'investir dans le transport en commun à Montréal.
Xavier Besson pour RFI, vous revenez donc sur cette brouille diplomatique entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis. Et
cela commence le week-end dernier avec des femmes tunisiennes empêchées d'embarquer dans des vols à destination de Dubaï ou d'Abu Dhabi. Un scénario qui se répète, qui est jugé inadmissible et qui provoque un tollé en Tunisie. Les ONG et les médias se saisissent de l'affaire et finalement, dimanche dernier, réponse des autorités tunisiennes, elles décident de suspendre les vols de la compagnie Emirates Airlines au départ et en provenance de Tunis, mesure de rétorsion qui est encore en vigueur aujourd'hui.
Donc officiellement, l'explication, c'est une question de sécurité.
Le secrétaire d'État émirati aux affaires étrangères l'avait évoqué sur Twitter. La présidence tunisienne le confirme. Abu Dhabi craint un attentat sur son sol. Et d'après ses renseignements, une attaque est en préparation par des femmes tunisiennes ou en tout cas titulaires de passeports tunisiens. Depuis, l'affaire semble bloquée. Une cellule de crise a été mise sur pied. Des discussions ont eu lieu cette semaine, mais elles n'ont rien donné.
En fait, Xavier, cette séquence, c'est la dernière illustration des relations compliquées entre les deux pays.
Oui, l'an passé, le président d'alors, Moncef Marzouki, avait accusé les Émirats de vouloir s'immiscer dans la politique de son pays et de chercher à faire vaciller la révolution tunisienne. Et plus récemment, Tunis a adopté une attitude de neutralité face au conflit entre le Qatar d'une part et d'autre part l'Arabie Saoudite et ses alliés, au premier rang desquels on trouve les Émirats. Une attitude interprétée à Abu Dhabi comme un soutien implicite au Qatar.
On va s'intéresser maintenant au taux de change entre le franc suisse et l'euro. L'euro vaut cette semaine entre 1,16 et 1,18 franc suisse et ça semble parti pour durer. Et la conséquence, en Suisse, Renaud Schuilly, ce sont les exportations industrielles qui respirent après 3 ans de souffrance. Ça va donc beaucoup mieux.
Et comment ? Il faut dire que ces dernières années, l'industrie des machines, la pharma ou encore l'horlogerie, qui regroupe des centaines de milliers d'emplois en Suisse, ont effectivement beaucoup souffert parce que ces secteurs dégagent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Or, avec un franc très fort face à l'euro, ces industries étaient bien plus chères que la concurrence étrangère. Maintenant que l'euro se renforce et paraît stabilisé, c'est vrai qu'on respire bien mieux parmi les patrons suisses.
Il y a les patrons et il y a aussi la Banque Nationale Suisse à qui cette situation a vraiment donné du fil à retordre.
Oui, pour le comprendre, il faut revenir au 15 janvier 2015, date devenue quasi historique. En Suisse, ce jour-là, la Banque Nationale, la BNS, met fin à ce qu'on appelle le taux plancher, soit un taux de change minimal maintenu artificiellement d'un euro à 1,20 franc. Et sitôt que l'euro s'affaiblissait davantage, la Banque Centrale Helvétique achetait massivement des devises européennes pour maintenir la limite. Et donc, ce fameux 15 janvier 2015, la BNS abandonne subitement ce taux plancher, jugeant trop dangereux de continuer à investir des milliards en euros. Ça a été un choc terrible. On a même brièvement atteint la parité franc-euro. Dans la foulée, beaucoup d'entreprises ont licencié, voire délocalisé. Et pour éviter que le franc suisse ne s'apprécie trop, la Banque Centrale a même introduit des taux négatifs pour dissuader les investisseurs de placer leurs avoirs en francs.
Et avec un taux de change qui se normalise désormais, eh bien on imagine que les prévisions de croissance en Suisse, elles seront au beau fixe en 2018.
Absolument. Il y a le taux de change, il y a aussi la croissance européenne et là aussi les feux sont au vert. C'est décisif parce qu'il faut le rappeler, l'économie suisse gagne 1 franc sur 2 dans les pays de l'Union européenne.
En Belgique, Thomas de Brouckère, on a commencé à en parler la semaine dernière, l'affaire des migrants soudanais, mais toujours dans la tourmente, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Franken.
Oui, Théo Franken est toujours très critiqué par l'opposition en cause. Cette crise des migrants soudanais qui n'en finit plus, des migrants renvoyés chez eux avec l'aide du gouvernement soudanais dont le président est recherché par la Cour pénale internationale. On a découvert que certains migrants ont été torturés à leur retour. On a appris aussi que Théo Franken a même caché des informations au Premier ministre. L'opposition l'accuse même d'avoir menti à Charles Michel, ce qui est très grave. Cerise sur le gâteau, on apprend cette semaine qu'un document prouve que le secrétaire d'État connaissait les risques en renvoyant ces soudanais chez eux. Mais il a tout de même continué les renvois. Aujourd'hui, tous les partis d'opposition demandent sa démission et même certains membres des partis de la majorité. Mais le Premier ministre reste muet pour l'instant.
Et comment peut-on expliquer justement ce laisser-faire du Premier ministre ?
Eh bien, tout simplement par la popularité dont jouit le secrétaire d'État et par l'influence de son parti, la NVA, au sein du gouvernement fédéral. C'est ce qu'explique Philippe Valkoviak, le chef de la cellule politique de la RTBF Radio.
En Belgique, contrairement à ce qu'on pense, un ministre ne démissionne pas parce qu'on veut qu'il parte, c'est parce qu'il est lâché par son parti. Ici, Théo Franken est soutenu par l'NVA, il est en plus l'homme le plus populaire de Flandre, il est sans doute le flamand le plus populaire au sud du pays. Tout ça fait qu'il peut se permettre toute une série de choses qui ne seraient pas possibles pour quelqu'un d'autre. La NVA ne va pas se priver de son principal atout, un de ses principaux atouts en tout cas, dans les campagnes électorales à venir.
Cette trêve de fin d'année est donc la bienvenue pour Théo Franken et le gouvernement fédéral. Mais Charles Michel est attendu, il devra s'expliquer lors de la rentrée parlementaire en janvier.
Laurent Thérien, au Canada, l'événement qui a marqué l'actualité cette année, c'est le mouvement Moi aussi, en anglais Me Too.
Oui, ce mouvement qui découle de l'affaire Weinstein aux États-Unis qui a eu de grandes répercussions au Canada. Le président du festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, qui est connu aussi en France, a été accusé par plusieurs femmes d'harcèlement et d'agression sexuelle. Il a vendu ses actifs dans l'entreprise qu'il a fondée et s'est retiré de la vie publique. Un autre gros nom de la culture télévisuelle québécoise, Éric Salvaille, est aussi tombé. L'animateur d'émissions de variété est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Ses émissions ont été annulées. Son entreprise a lui aussi été vendue. Un réalisateur très connu également dans le monde de la télévision québécoise, Sylvain Archambault, s'est vu accusé de harcèlement et d'attouchement par des acteurs et des techniciens.
Et en réponse à ces dénonciations, le gouvernement québécois a décidé de réagir.
Oui, il a annoncé toute une série de mesures pour prévenir ces crimes et mieux traiter les victimes. Le gouvernement de Philippe Couillard compte investir 25 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour soutenir les organismes qui informent et qui aident les victimes. Le gouvernement a aussi salué le changement de culture qui favorise au Québec, comme ailleurs dans le monde, l'expression d'un mouvement de dénonciation de la part des victimes de violences à caractère sexuel. Et on s'attend à ce que cette vague de dénonciation continue d'avoir un impact au Canada en 2018.
En France, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Une petite association française vient de porter plainte contre Apple. Une action en justice pour dénoncer l'obsolescence programmée de certains iPhones. Le géant américain a d'ailleurs reconnu qu'il avait volontairement ralenti ses anciens modèles par le biais des mises à jour. Les batteries des téléphones sont devenues plus faibles et les consommateurs avaient dans les mains des appareils moins performants. Eh bien, en France, depuis peu, cette approche commerciale, au détriment du consommateur, c'est devenu un délit. Et une association a même été créée, elle s'appelle HOP, H-O-P pour Halte à l'obsolescence programmée. L'un de ses membres fondateurs, Samuel Sauvage, a donc porté plainte devant le procureur de la République.
On porte plainte pour obsolescence programmée d'Apple. Alors, cette loi existe en France depuis 2015, mais elle reste théorique pour l'instant, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation encore. Alors, on s'appuie sur plusieurs éléments qui ont été dévoilés récemment dans la presse, notamment l'indicateur de performance Geekbench, qui a étudié des milliers de téléphones qui ont constaté, donc sur des milliers, donc sur un échantillon très solide, qu'il y avait une grande partie de ces téléphones qui étaient fortement ralentis depuis la mise à jour. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est qu'Apple souhaite ralentir des téléphones pile au moment où il sort un nouveau modèle pour inciter les consommateurs à acheter le nouveau modèle.
Voilà, et depuis, Apple a présenté ses excuses en expliquant que l'entreprise n'avait certainement pas eu l'intention de berner ses clients. Quant à l'association HOP, HOP, qui a porté plainte contre Apple, eh bien, en septembre dernier, elle avait déjà traîné en justice des fabricants d'imprimantes Canon, HP, Brother et Epson. Pour les mêmes motifs, c'était même la première fois en France qu'une plainte était déposée pour ce type de délit. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci à tous les contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.